Ce matin, j'aimerais vous partager avec vous quelques réflexions sur la notion de responsabilité. Qu'entend-on par responsabilité, par l'expression « être responsable » ça peut être, par exemple, lorsqu'on confie une tâche, une mission, un travail à quelqu'un, donc, on dit de lui qu'il est responsable de cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui doit répondre. Donc dans responsable, il y a le mot, ça vient du mot répondre. C'est celui qui répond. C'est lui qui doit répondre de la gestion de l'affaire qui lui est confiée. Alors lorsque cette affaire est une réussite, lorsqu'on demande un responsable, il y a tout le monde qui se lève comme pour Danette. Hein. Par contre... Lorsqu'il s'agit de rendre compte d'un désastre, d'un ratage complet, eh bien là, il n'y a plus personne. Hein. Vous voyez, certains lèvent les yeux au plafond, d'autres regardent la pointe de leurs chaussures, d'autres encore commencent à se curer les ongles. Enfin, il n'y a plus personne, de responsable. Ces dernières semaines, dans l'actualité, j'ai vu un bel exemple, enfin quand je dis un bel exemple, entre guillemets, ce n'est pas un exemple à suivre, de ce que je veux dire. On a entendu beaucoup parler de commissions d'enquête parlementaires. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des parlementaires donc, qui se réunissent, qui enquêtent sur pour dégager des responsabilités, pour voir qui est responsable de quelque chose qui a mal fonctionné. Et on en a vu quelques exemples ces dernières semaines, ces derniers mois. Il y a eu la commission pour les attentats de Bruxelles pour voir un peu si la police, la gendarmerie, les services de renseignement, tout le monde a bien fait son travail. Bon, pour essayer de voir qui est responsable de ce qui est arrivé. Plus près de nous, il y a une commission qui enquête à propos du scandale qu'on appelle le Kazakh Gate, donc au sujet de un homme politique qui aurait influencé pour servir les intérêts donc d'un Kazakh, je ne sais plus comment ce qu'on dit, c'est pas un Kazakh, pas un Kazakhstanais, hein, non. Maintenant, on demande une commission pour le scandale, c'est vrai qu'il fait chaud ici, pour le scandale Publifine. Et voilà, on veut savoir qui est responsable de ça. Et je me suis souvenu, il y a 20 ans maintenant déjà, de la commission qu'on avait mise en place pour l'affaire du trou. Et moi, je me souviens que j'avais suivi ça de très près. Hein. Tous les jours, je regardais en direct. Hein. Et finalement, qu'est-ce qui se dégage de tout ça? C'est que parmi tous ces responsables, ben en fait, il n'y a personne qui est responsable. Parce que quand vous demandez pourquoi est-ce que vous avez fait ça, ou pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait ça, ben, on vous répond, ben, c'était pas mon travail, c'était celui de mon collègue, ou bien pourquoi on n'avait pas transmis cette information, ben, on ne me l'a pas demandé. Mais je me suis dit, ben en fait, il n'y a personne qui est responsable de rien là-dedans. Hein. Alors, ne leur jetons pas trop vite la pierre, parce que finalement, nous sommes, il faut le reconnaître, nous sommes tous comme ça, un petit peu. Hein. Cette tentation de nous justifier à tout prix, de nous décharger d'une faute sur un autre ou sur quelque chose d'autre, nous l'avons aussi, hein, il ne faut pas se voiler la face. Et cela ne date pas d'hier, hein, ni d'avant-hier, mais ça remonte très loin, au jardin d'Éden déjà. Vous connaissez tous ce qui s'est passé. Donc, Adam et Ève ont désobéi, ils ont mangé le fruit défendu. Et alors Dieu vient demander des comptes, hein. Qui est responsable de ce qui s'est passé. Dans Genèse 3, bon, vous connaissez tous le passage, mais on va le relire. Donc à partir du verset 9, Dieu vient demander des comptes. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel dit, qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Alors voilà la réponse. Hein. L'homme répondit, la femme. Voilà, déjà, c'est pas lui. Hein. Ève, la première femme, Adam, le premier macho. C'est la femme. Où est-ce que je suis? Mais il ne s'arrête pas là. La femme que tu as mise auprès de moi. Je ne crois pas qu'il a montré du doigt, il n'a pas osé, hein, je ne pense pas. Mais en fait, quand même, là, c'est grave, parce que finalement, c'est... Bon, voilà, Dieu... Bon, j'étais tout seul. Bon, tu as mis une femme près de moi, ben, c'était peut-être pas une bonne idée. Hein, tu aurais peut-être dû me laisser tout seul. Rien ne serait arrivé. Donc, voilà comment il se décharge de sa responsabilité. L'Éternel Dieu se tourne donc maintenant vers la femme. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi? Et la femme répondit, le serpent. Ben ouais, le serpent. Il m'a séduite et j'en ai mangé. Vous pouvez remarquer que c'est logique. Il y a un serpent, le serpent est séducteur. C'est obligé que je sois séduite, moi une faible femme. Donc, voilà, je n'ai aucune responsabilité là-dedans. Peut-être qu'elle a pensé, je ne sais pas, elle n'a pas osé le dire, mais elle aurait pu dire, Dieu, c'est quand même dommage que tu as laissé traîner un serpent dans ce magnifique paradis terrestre dans lequel nous vivions, où tout était magnifique. Qu'est-ce qu'un serpent faisait là-bas quand même? Enfin voilà, donc c'est pas la faute à eux. C'est la faute au serpent, c'est la faute à la femme, et même c'est la faute à Dieu, quoi, presque. Hein. Et vous pouvez remarquer que plus loin, l'Éternel dit au serpent, il ne dit pas « Pourquoi tu fais cela ?» Ben oui, il sait bien pourquoi le serpent fait ça, il n'y a pas besoin de lui demander. Mais aussi parce que il a laissé la possibilité à Ève et à Adam de se repentir, de reconnaître leur responsabilité. Alors que le serpent, ben, il ne lui demande même pas. Hein, il dit, ben, puisque tu as fait cela, voilà, paf, c'est fait. Alors, je me suis rappelé de deux petits passages dans 1 Samuel, au chapitre 13 d'abord, deux petits passages que je trouve qui illustrent un peu bien cette tendance que nous avons à essayer de fuir nos responsabilités. Il y a deux petits passages, le premier se trouve dans, au chapitre 13 de 1 Samuel. Alors, donc, il y a Samuel et il y a le roi Saül. Alors, Samuel dit à Saül, tu dois attendre mon retour 7 jours. Tu ne dois pas faire de sacrifice, pas d'holocauste, tant que je ne suis pas revenu. Le roi Saül dit, ok, ça va, bon, d'accord. Et puis, voilà que les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Et alors, devant la multitude des soldats philistins, le peuple d'Israël commence à prendre peur, il commence à paniquer, il commence à se cacher à droite et à gauche. Et alors, le roi Saül aussi commence à avoir peur. Il se dit, il y a mon peuple qui est en train de se barrer, je vais me retrouver tout seul devant les Philistins. Et alors, il décide d'offrir quand même l'Holocauste. Samuel n'arrive pas, mais tant pis, je vais faire l'Holocauste, hein. Donc les sacrifices, parce qu'ils avaient besoin de faire les sacrifices avant de se battre contre les Philistins. Alors Samuel va revenir, évidemment, et il va aussi demander des comptes à Samuel. Ah, Saül, pardon. Alors au verset 10, nous lisons, « Comme il achevait d'offrir l'Holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. » Ben oui, déjà Saül, il sait bien qu'il n'est pas droit dans ses bottes, hein, parce qu'il aurait dû attendre le retour de Samuel. Alors il sort, « Ah, Samuel, ah, je suis content de te voir. » Déjà, il essaie de l'amadouer. Hein. Samuel dit, « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit, « Ben, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait... » Voilà, déjà, le peuple. C'est pas lui. Hein. « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé. » Samuel, tu serais arrivé un petit peu plus tôt, ça ne serait pas arrivé. Hein? Donc, quelque part, c'est de la faute aussi de Samuel. Hein? Et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas encore imploré l'Éternel. Ça veut dire que je n'ai pas encore fait les sacrifices pour implorer la protection de l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence. C'est-à-dire que je ne voulais pas, mais je l'ai fait quand même, et que j'ai offert l'Holocauste. Alors Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. » Et un petit peu plus loin, au chapitre 15, il y a encore une petite scène intéressante. Donc Saül et son armée doivent aller, ont reçu l'instruction d'aller conquérir une ville. Par la bouche de Samuel, donc, Saül a reçu l'instruction de raser complètement cette ville et de ne toucher à rien, donc de ne profiter de rien. Et même le bétail devait être tué, brûlé. Donc, on ne pouvait toucher à rien. Et, il attaque la ville et tout ça, mais le peuple, il voit des beaux agneaux bien gras, il voit des beaux bœufs, et je dis, c'est quand même dommage de devoir perdre tout ça. Hein. Alors, le peuple, il récupère tout ce qu'il y a de bon, et alors il supprime tous les animaux qui sont chétifs, malades, pas très beaux. Par contre, il garde tout ce qui est bon. Hein. Alors, Samuel revient, et il va demander des comptes, encore une fois, à Saül. Au verset 13, Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel !» Oui, déjà le faucheton, hein, parce qu'il sait qu'il a mal fait, hein, il sait qu'il n'aurait pas dû faire, donc il sait qu'il n'est pas droit dans ses bottes, donc il essaie déjà d'amadouer Samuel. « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles ?» Et ce mugissement de bœufs que j'entends. Saül répondit, il, le peuple, il ne faut pas oublier que lui, il est le roi, hein, il est responsable du peuple, de ce que fait le peuple. Hein. Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit, c'est-à-dire nous avons supprimé tout le reste. Alors ici, donc, qu'est-ce qu'il dit pour se justifier? Ben oui, on a gardé toutes les belles bêtes, ben, mais ce n'est pas pour les manger, hein, ce n'était pas pour nous, c'était pour les sacrifier à ton Dieu. Donc voilà. Samuel dit à Saül, arrête. Arrête, tu t'enfonces. Donc, Samuel n'est pas dupe. Hein. Il voit bien que Saül essaye de fuir sa responsabilité en tant que roi et en tant que serviteur de Dieu. Alors, finalement, bon, il essaie de se disculper, mais il voit que ça ne marche pas, hein, parce que Samuel lui dit un peu plus loin, « Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel ? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ?» Et Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. » J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple, encore une fois, mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de le sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Donc, voilà, c'est pas pour nous hein, qu'on a pris tout ça. C'était pour le sacrifier à Dieu. Et Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, autant que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors vous allez voir que Samuel, il voit que ça ne marche pas, hein, tous les prétextes qu'il invoque, ça ne marche pas. Alors, il dit au verset 24, « Bon, ben, c'est vrai, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et j'adorerai l'Éternel. » Et voyez que Samuel va répondre, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi d'Israël. » Alors, c'est vrai qu'ici, il reconnaît, Saül reconnaît finalement sa responsabilité, mais je suis convaincu que Samuel comprend qu'il ne s'agit pas d'une vraie, véritable repentance. En fait, Saül a peur des conséquences, il a peur de la colère de Dieu, et alors finalement, contraint et forcé, il reconnaît sa responsabilité. Mais ça, c'est pas une vraie repentance. Alors, c'est vrai qu'on préfère souvent se décharger de notre responsabilité en impliquant soit quelque chose d'autre, soit un événement, ou soit une autre personne. Et ce n'est pas seulement lorsqu'il s'agit de justifier par rapport à un travail, de quelque chose qu'on nous avait confié, mais aussi, et c'est surtout ce qui m'intéresse aujourd'hui, par rapport à notre comportement. Par rapport à notre comportement, on essaye toujours de se justifier d'un mauvais comportement. Il y a la célèbre formule « il m'a énervé ». Au lieu de dire « j'ai manqué de patience »,« je me suis laissé emporter », ben on aime mieux de dire « bah oui, il m'a énervé, hein, c'est normal, hein, c'est normal, hein, c'est pas de ma faute hein. ». Ça me rappelle quand on était à l'école. « C'est lui qui a commencé, monsieur ». Alors pourquoi est-ce qu'on agit comme ça? Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas reconnaître notre responsabilité? Il y a bien sûr l'orgueil, hein, bien sûr l'orgueil, on n'aime pas reconnaître qu'on est responsable, soit d'un mauvais comportement, soit de quelque chose qui a mal tourné. Il y a la peur des conséquences, c'est le cas ici de Saül, hein. S'il reconnaît sa responsabilité, c'est parce qu'il a peur des conséquences. Mais aussi, on n'aime pas ressentir cette tristesse qui nous envahit lorsque on prend conscience de, qu'on est responsable de quelque chose ou de notre mauvais comportement. Parce que ça provoque un sentiment de culpabilité qui est assez désagréable. Hein. D'ailleurs, dans notre société moderne, ici, je ne sais pas s'il y a des psys dans la salle ou des parents qui ont des enfants psys. Je ne suis pas contre tous les psys, il y en a des bons certainement, mais il y a une tendance dans la société dans laquelle nous vivons à nous encourager à éviter absolument ce désagrément de se sentir responsable de quelque chose. Parce que ben, ça peut nuire à notre épanouissement personnel. Et alors, on préfère nous convaincre que nous sommes plutôt des victimes plutôt que des acteurs. Et le rôle de victime est plus agréable, hein, parce que les gens, quand vous êtes victime, ils sont gentils avec vous, ils sont complaisants, vous voyez. Pourtant, la parole de Dieu nous enseigne que la tristesse qui est causée par un sentiment de culpabilité, donc lorsqu'on prend conscience de sa responsabilité, peut être salutaire. Mais attention, pas n'importe quelle tristesse, parce qu'il y a deux tristesses. Dans 2 Corinthiens 7, Paul parle il distingue deux tristesses. Verset 9. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse, selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition vous avez montré à tout égard que vous étiez pur dans cette affaire. Donc vous voyez que Paul distingue deux sortes de tristesse. C'est la tristesse selon le monde. Lorsque le monde vous accuse de quelque chose, eh bien, il vous pousse au remords, il vous pousse à la dépression, à un sentiment de culpabilité. Par contre, lorsque c'est le Saint-Esprit qui vous interpelle, ça c'est la tristesse selon Dieu, c'est la tristesse que le Saint-Esprit met en vous, dans le sens que le Saint-Esprit vous fait prendre conscience de votre responsabilité. Tu essayes de te justifier ton mauvais comportement, mais est-ce que ce n'est pas plutôt parce que tu as manqué de patience? Est-ce que ce n'est pas plutôt parce que tu as manqué de compassion? Et en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que... Bon. Et donc, la tristesse selon le Saint-Esprit, selon Dieu, au lieu de vous pousser à être déprimé ou avoir ce sentiment de remords qui vous pénalise, on va dire, eh bien cette tristesse, au contraire, elle va vous pousser à vous améliorer. C'est important, je pense, de reconnaître sa responsabilité personnelle dans une affaire, dans un mauvais comportement. d'arrêter de se justifier. Pourquoi ? Mais parce que ça nous permet de progresser. C'est ce qui nous fait progresser dans notre vie de tous les jours, surtout dans nos relations avec les autres. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons une responsabilité énorme. La responsabilité d'être toujours un témoignage digne du Seigneur. Et je pense qu'on doit partir du principe que, contrairement à ce que la société d'aujourd'hui nous enseigne parfois, pour un enfant de Dieu, rien ne peut justifier un mauvais comportement. On peut expliquer, bien sûr, on peut comprendre parce que, bon, une personne a vécu tel problème, il se trouve dans telle situation. On dit, ben oui, bon, ça peut expliquer pourquoi il s'est comporté de telle manière. Par contre, rien ne peut justifier un mauvais comportement. Et je pense qu'il faut partir de ce principe pour nous aider, avec l'aide du Seigneur, bien sûr, pour nous aider à nous améliorer dans notre vie spirituelle, dans notre marche vers la sainteté. Je me rappelle lorsque, il y a maintenant une dizaine d'années, lorsque j'étais dans la dépression, je consommais beaucoup d'alcool, des médicaments, je faisais des choses dont je ne suis pas très fier aujourd'hui. Et j'ai consulté plusieurs psys. Hein. Encore une fois, je suis pas contre les psys, mais voilà, il y a certaines choses que je trouve qu'il faut faire attention avec eux. Et ce qu'ils faisaient, c'est essayer de trouver la cause. Pourquoi est-ce que je me comportais comme ça? Alors, c'était à cause de mon travail. Oui, ben c'est normal, à cause de votre travail, la pression, le stress, ceci. Donc, c'est normal que vous vous comportez comme ça. C'est comme Ève, elle a été séduite par le serpent. C'était logique et normal qu'elle se laisse séduire. C'était à cause de l'entourage, de mon... On recherchait aussi dans mon enfance quelque chose qui aurait pu expliquer. Et pourtant, c'est pour vous dire que y a aussi des bons hein, dans les psys. J'ai consulté un qui m'a dit et si vous cessiez, parce que je lui racontais tout ce que les autres m'avaient dit, hein, oui, à cause de mon travail, je fais ceci, à cause de ceci. Parce que ça ne va pas, alors je fais ci, je fais ça. Et ce psy-là, il m'a dit, mais si vous cessiez un peu d'incriminer tout le monde, tous les autres, parce que moi, ce n'est pas les autres que je dois soigner, c'est vous. Et parce qu'en fait, c'est quand même vous qui faites ce que vous faites. Hein. Ce n'est pas les autres. Hein. Alors je suis sorti et j'ai dit à Maria, qu'est-ce que c'est pour un psy celui-là? Qu'est-ce que ça? Je ne veux plus le voir, moi. Ben oui, les autres, ils me dorlotaient, ils me caressaient suivant le poil. Mais par contre, celui-ci essayait de me faire prendre conscience. Mais je l'ai compris avec le recul. Hein, au moment même, je ne comprenais pas que c'était moi qui étais responsable de ce que je faisais et que c'était à moi de prendre la décision de cesser de faire ce que je faisais. Oui, certains, pour justifier leur comportement, prennent toutes sortes d'excuses. Par exemple, on dit à un tel, on lui dit, ben, vous avez certainement que vous avez manqué d'amour lorsque dans votre enfance. Un autre va dire, vous avez eu trop d'amour. Hein, et alors, ça vient toujours des autres. Et moi, je peux vous dire, d'après mon expérience personnelle, que ce n'est qu'à partir du moment où j'ai pris conscience que c'était moi qui étais responsable de ce que je faisais et que j'ai cessé de me chercher des excuses, que j'ai cessé reporter ma faute, ma culpabilité sur les autres, que c'est à ce moment-là avec toujours l'aide de Dieu, bien sûr, parce que c'est le Saint-Esprit. Il faut écouter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne te dit pas, c'est de la faute de lui, c'est de la faute de l'autre. Le Saint-Esprit dit, c'est de ta faute. Ah, mais ça ne fait pas plaisir, hein, ce n'est pas agréable. Mais c'est la vérité. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Et la vérité, elle n'est pas toujours en notre faveur. Mais c'est toujours pour notre bien. Alors cessons de nous chercher des excuses, des prétextes et de refouler notre propre responsabilité sur les autres. Cessons aussi de dire, ben c'est mon caractère, je suis comme ça, c'est plus fort que moi. Je suis convaincu que ce n'est pas une fatalité. Je suis convaincu qu'avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, nous sommes capables, peut-être pas de changer à 100%, hein, on a tous notre tempérament, mais je pense qu'on peut s'améliorer très fort. Et on a chanté tout à l'heure « Te ressembler, Jésus ». Mais si on prend comme objectif de vouloir ressembler à Jésus, on peut grandir dans la sainteté. Arrêtons de nous voiler les yeux, arrêtons de nous bercer d'illusions, comme le monde moderne dans lequel nous vivons, cette société dans laquelle nous vivons, nous y encourage. Dans la première épître de Jean, au chapitre 3, verset 7, Jean dit, « Petits enfants, que personne ne vous séduise, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. » Comme lui, Jésus, est juste. Donc, ne nous laissons pas séduire dans le monde très libéral dans lequel nous sommes. Acceptons de reconnaître notre part de responsabilité, car c'est de cette manière que nous pouvons espérer nous améliorer en tant qu'enfants de Dieu. Alors, pour terminer, il faut se rappeler que dans le plan de Dieu, dans le plan de salut de Dieu, la première étape, c'est reconnaître sa culpabilité, reconnaître sa responsabilité. Reconnaître que Dieu, à cause de moi, à cause de mon péché, Dieu a dû donner son Fils Jésus pour moi. À cause de mon péché, à cause de ma rébellion, j'ai poussé Dieu à devoir donner son Fils unique pour moi. Et donc, le salut est gratuit, mais le salut, il dépend de cette condition, c'est d'accepter que nous avons cette responsabilité, que Jésus est mort pour nous. Et c'est à cette condition que nous pouvons être sauvé. Reconnaître notre nature de pécheur et nous repentir. Parce que reconnaître, c'est une chose. Hein? Repentir, c'est une autre chose. Je reviens encore à Saül. Tout à l'heure, il a reconnu que oui, bon, c'est vrai, ok, d'accord, j'ai désobéi. Mais il n'y a pas de repentance là-dedans. Hein? Mais dans la repentance, c'est vrai, Seigneur, je suis un pécheur, mais ça me fait mal. Ça me fait quelque chose et je ne veux pas rester comme ça, je ne veux pas rester comme ça. Je veux que je me tourne vers Dieu et je veux que tu fasses Dieu. Seigneur, viens à mon aide, sauve-moi. Voilà, ça c'est la repentance. Alors pour terminer, j'aimerais vous lire quelques versets du psaume 32. C'est le psaume que j'ai lu lors de mon baptême. C'est un psaume de David où David va dire que tant qu'il se taisait, eh bien, il n'était pas bien. Et lorsqu'il a confessé son péché, eh bien, évidemment, Dieu a pardonné et il a repris cette relation qu'il avait avec son Dieu. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, c'est-à-dire tant que je ne reconnaissais pas ma responsabilité, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Et c'est vrai que quand, même si on ne reconnaît pas notre responsabilité, le Saint-Esprit nous travaille, et on n'est pas bien, quand même on n'est pas bien. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Par contre, voilà, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je vais terminer par une courte prière. Seigneur mon Dieu, je veux te demander pardon parce que c'est vrai que mon orgueil souvent m'empêche de reconnaître ma responsabilité. Seigneur, te demander pardon aussi parce que souvent, lorsque je me comporte mal, j'implique les autres et je donne cette responsabilité à d'autres. Seigneur, je te demande, je te prie de me faire progresser, Seigneur, dans la sainteté, Seigneur, de me donner la patience afin que je puisse me contrôler et ne pas me mettre en colère. Seigneur, que je puisse être un témoignage digne, édifiant, qui te fait gloire, Seigneur, qui te donne gloire. Je te le demande au nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors,